Moi, je laisse mes camarades un peu s'installer. Hein. Même Olivier est là depuis 2 bonnes heures déjà à vous parler, donc il fatigue un peu, il a besoin de 2 minutes de pause. Bienvenue dans cette table ronde donc consacrée à l'au-delà dans les séries, et plus précisément sur la manière dont des séries récentes renouvellent, revisitent des motifs de l'au-delà issus. On le verra avec les intervenants d'une longue tradition et selon des modes qui, eux, sont, rencontrent un succès énorme et qui dépendent à la fois, je veux dire, d'une influence d'autres genres, la science-fiction notamment, et d'impératifs de production et d'écriture qui, eux, sont tout à fait liés aux séries. On va essayer de débroussailler tout ça dès que la technique arrêtera de m'abandonner. Merci. Donc, pour en discuter aujourd'hui, à ma droite, Jeanne Adebach, reconnue dès son premier opus, La vieille anglaise et le continent en 2008, avec 4 des prix majeurs de la science-fiction française. Novelliste et romancière, son œuvre pessimiste est imprégnée de sensualité et d'un paradoxal amour de la vie, partageant ses préoccupations, l'acceptation de soi et de la différence, comme le combat contre les discriminations. Son roman jeunesse, Pixel Noir, a reçu le prix européen jeunesse des Utopiales 2014. Son dernier roman adulte, Alouette, deuxième tome de sa trilogie Testament, paraîtra chez ActuSF au premier trimestre 2016, après la ressorti en poche chez Helios, du roman fondateur du cycle de Navarre, Métaphysique du vampire, en août 2015. À sa droite, Jérôme Noirez, qui n'avait, et je y s'affiche, guère plus d'un an quand La Nuit des Morts Vivants a été diffusée pour la première fois en France. Adolescent passionné de cinéma et de littérature d'épouvante, il a par la suite exploré d'autres horizons. Culture japonaise, littérature américaine, musique ancienne ou éthologie canine sont dorénavant ses domaines de prédilection. Auteur d'une 20aine de romans, il s'est fait remarquer avec sa fantasy baroque Féerie pour les ténèbres et ses thrillers historiques Fleur de dragon, Desolation Road, plusieurs fois primé. Il vit à la campagne en compagnie d'une chienne génétiquement modifiée et se consacre exclusivement à l'écriture. Et à ma gauche, Olivier Cotte, réalisateur, historien du cinéma d'animation, scénariste de bande dessinée, traducteur, auteur de près de 30 ouvrages. Il a également travaillé, entre autres, et excusé du peu pour Roman Polanski, Costa Gavras, Mathieu Kassovitz, Léo Carax et Wim Wenders comme infographiste. Parmi ses parutions les plus importantes, notons les bandes dessinées Le Futuriste, L'Ultime Défi de Sherlock Holmes et L'Épouvantail aux éditions Casterman. Pour le cinéma, les Oscars du film d'animation aux éditions Erol. La méthode Écrire pour le cinéma et son dernier opus, l'encyclopédie consacrée au film d'animation 100 ans de cinéma d'animation, paru en 2015 aux éditions Duno, que vous pouvez trouver à peu près 30 mètres d'ici à vol d'oiseau. Et si vous vous intéressez au genre et que vous ne l'avez... qui ne coûte pas cher. Et si vous vous intéressez au cinéma d'animation et que vous ne l'avez pas lu, c'est un cas de toute une éducation à refaire. Heureusement, Olivier est là. Donc, nous allons parler tout de suite donc, de l'au-delà dans les séries. Quand on prend effectivement sur ces dernières années les séries qui ont, sont les plus suivies, on a Walking Dead, on a True Blood, on a eu Pushing Daisies, on a quelques séries comme ça qui marchent extrêmement bien commercialement, ou dans le cas de Pushing Daisies, qui n'ont pas rencontré leur public sur le moment, ont été arrêtées assez tôt, mais sont quand même devenues des séries cultes, et qui donc revisitent les thèmes ou tropes du fantastique, particulièrement donc les zombies, les vampires. Et avant d'aller un peu plus dans le détail de la manière dont ces séries revisitent cet au-delà, je vais demander à Jérôme de déjà nous brosser un portrait un peu général de cet au-delà.
Je suis brosseur de portraits
de l'au-delà.
Il s'avère que ce n'est pas dans ma fiche, dans ma sympathique biographie, mais j'ai beaucoup travaillé sur la thématique des fantômes. Je me suis intéressé à ça d'un point de vue culturel, on va dire plutôt, étant par ailleurs un rationaliste. Qui ne croit pas aux fantômes. Et pour dire quelques mots sur l'au-delà en tant qu'espace, en tant que carrière-monde, avec sa géographie propre, on a quand même une évolution très nette dans la culture humaine. On part d'un au-delà qui est extrêmement intangible, élitiste, puisqu'en fait l'au-delà c'est plutôt destiné à une certaine classe sociale. Le peuple, lui, a le droit plutôt à un non-espace, à une non-existence, une non-mémoire. Donc le mort commun, c'est plutôt une ombre qui va errer sans but, sans mémoire. C'est le cas chez les Mésopotamiens, les Égyptiens, etc. Et on voit petit à petit l'émergence d'un au-delà qui s'ouvre, qui se démocratise, quoi, qui s'ouvre à tous, avec une après-vie qui va être un petit peu plus éclairée. Voilà. Chez le cas, chez les Grecs. Et on, petit à petit, on sort d'une espèce d'espace comme ça, les limbes, hein, informel, indescriptible, à un espace de plus en plus décrit, un espace décrit même sur un plan géographique, un espace subdivisé. Et on a l'apparition tardive d'une géographie morale. C'est-à-dire que là, on a plus seulement un au-delà générique, mais on a plusieurs au-delà, plusieurs étages d'au-delà, où on est dirigé en fonction de considérations morales, donc paradis, enfer, purgatoire, etc. Et à partir du moment où on a cet au-delà tangible, géographiquement décrit, parfois décrit avec même beaucoup, c'est évidemment Dante va donner une description extrêmement précise là de ces trois mondes chez les chrétiens, de ces trois arrière-mondes, les enfers, le purgatoire et le paradis. À partir de ce moment-là, il y a la possibilité, quand on a une géographie décrite, il y a la possibilité de s'évader de cet espace. Il y a la possibilité de monter dans un bateau et de revenir dans le monde des vivants. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que l'au-delà devient une chose extrêmement inquiétante, parce que c'est toujours très inquiétant quand les morts décident de revenir chez les vivants. C'est toujours synonyme d'inquiétude ou de monstruosité. Et on va voir ça apparaître avec tout un bestiaire imaginaire, zombies, vampires, fantômes divers créatures qui reviennent. Et finalement, l'incarnation la plus moderne de cette imagerie, au XXe siècle, et encore maintenant, on va la trouver dans les rencontres du troisième type. C'est-à-dire, il y a une analogie extraordinaire à faire entre les apparitions fantomatiques et en particulier les enlèvements. Et j'étais en train de penser, puisqu'on est dans les séries, je repensais aux envahisseurs et à cette introduction qui est répétée à chaque fois. David Vincent se perd sur un chemin de campagne, et puis on a ces espèces de lumières qui viennent d'un ciel obscur. On est vraiment là dans l'imagerie d'un vivant qui, à l'inverse, qui fait le chemin inverse, quoi, qui se perd à un moment dans le monde des morts.
Donc j'introduisais sur le fait que, et c'est le thème notamment de la table ronde, qu'on a une relecture qui a trait à la science-fiction de ces thèmes-là. Qu'est-ce qu'on entend par là dans les figures du zombie et du vampire, pour rester là? Quand on regarde des récits fantastiques classiques, en tant qu'universitaire, on a tendance, dans d'anciennes définitions, à définir le fantastique comme... C'est une simplification, bien sûr, hein, mais à le définir comme l'irruption de l'irrationnel dans un monde qui, lui, est rationnel et qui vient rompre ses règles et qui, surtout, reste inexplicable. Il y a toujours cette idée de suspens. On n'arrive pas à intégrer cet élément dans notre monde rationnel. Et une figure très intéressante entre ce point de vue est la figure de Lovecraft, qui souvent échappe aux catégorisations entre science-fiction et fantastique, justement pour cette raison-là. Lovecraft est non seulement un écrivain, mais aussi quelqu'un qui a aidé énormément d'auteurs, qui a aussi écrit des règles d'écriture, qui sont des mises en situation proprement fantastiques. On va dire retour du cadavre, des figures fantomatiques. La différence entre Lovecraft et beaucoup d'auteurs de son époque, c'est que lui développe un panthéon qui est cohérent. Et cette cohérence et cette persistance du monde, le fait de faire une carte précise, qui par contre revient hein, à des origines plus anciennes et qui dépasse la fiction, fait de lui un auteur qui s'apparente à la science-fiction, bien plus que le fait que ces êtres viennent de l'espace ou une origine, ce qui reste simplement une variation sur le thème. C'est avant tout cette cohérence-là qui fait la différence. Et on remarque bien dans des séries, et je vais prendre quelques exemples avant de vous faire réagir. Prenons les vampires tels qu'on les a dans des séries récentes, dans True Blood ou dans The Strain. On voit très bien la manière dont l'au-delà devient organisé. Dans True Blood, au départ, on a des figures de vampires qui vivent avec leurs souvenirs historiques, qui sont des retours relativement classiques, et on découvre extrêmement vite qu'il y a une organisation politique, qu'ils ont une police interne, qu'il y a des règles qui s'appliquent, qu'ils ont des règles physiologiques avec lesquelles on peut travailler. On peut dire encore plus au niveau de The Strain qui vient de sortir, où là on a vraiment une vision virale du vampirisme. On garde effectivement un fond, et il travaille justement sur ce fond antique, mais le mode de fonctionnement des vampires est tout à fait rationnel et suit un paradigme virologique et biologique qui correspond tout à fait à notre époque. Et avant de donner la parole à Olivier sur un point, il y a aussi quelque chose qu'on retrouve bien sûr dans The Walking Dead, avec où là je dirais que l'apport science-fictionnelle est très certainement le caractère global de la manière dont on prend de la, vraiment de la définition de Campbell de la science-fiction était l'exploration en fiction des conséquences sociales de l'innovation technoscientifique. Si on prend Walking Dead, on a l'exploration à grande échelle des conséquences sociales, politiques et au niveau de l'individu du développement d'un virus apocalyptique de vampire. Et pour reprendre la figure du zombie dans les séries, elle vient moins de la tradition mythologique ou religieuse du zombie, mais vient beaucoup plus des films de Romero, dont les zombies ne sont absolument pas anodins et portent un message politique et sociologique dès les premiers films. Ce n'est pas pour rien que dans un film de Romero, quand les gens perdent leur raison, perdent la possibilité de prendre des décisions, que font-ils ? Ils vont s'amasser dans un supermarché pour faire du lèche-vitrine. C'est évidemment un commentaire direct sur certains excès du consumérisme et sur l'abrutissement organisé. Je vais dire aux États-Unis, histoire qu'on ait l'impression de ne pas faire partie de ce système-là. Et je donc laisse la parole à Olivier sur cette légère pomme de terre chaude.
Excuse-moi. Tu parlais du lèche-vitrine. Il y a un film que nous avons vu récemment avec Olivier, qui était particulièrement rigolo, qui s'appelait La nuit de la comète, et qui rendait tout le monde zombie s'ils avaient été plus ou moins exposés à la lumière. Et effectivement, la première chose que les survivants pensent à faire, c'est d'aller s'éclater, faire du shopping dans les grands magasins vides. Mais les zombies aussi. Et alors, ils se retrouvent, évidemment, ça finit mal.
Mais de toute façon, cette idée de... maintenant que disons, la science-fiction puisse se frayer avec le fantastique, et finalement, en ayant des thèmes communs et même des résultats communs, bon, on l'a eu déjà avant, I Am a Legend, typiquement. On a un virus qui ne laisse comme survivant, à part un homme qui, franchement, a bien du courage pour ne pas se buter tout de suite. Et sinon, ce sont ni plus ni moins que des vampires. Bon, donc là, on est quand même dans l'irrationnel. Ceci dit, il y avait un point qui était intéressant. Là, c'était l'organisation du monde de l'au-delà. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Ça a toujours existé, parce que finalement, il y a des sociologies dans la mythologie qui sont... enfin, des modèles de société qui sont extrêmement codifiés, qui fonctionnent très bien. Toute la religion hindouiste est plutôt bien travaillée au niveau des personnages, si je puis me permettre, hein, au niveau des lieux, de rôle de chacun, etc. On avait eu finalement dans le panthéon grec des choses qui fonctionnaient parfaitement bien aussi. C'est plutôt après coup dans l'idée qu'il y ait de la superstition où là, c'est devenu beaucoup plus individuel en termes de réception, surtout qu'en plus, accessoirement, l'Église catholique avait tendance à éviter de dire que l'enfer était extrêmement organisé, au moins aussi bien qu'au paradis. Ça la foutait mal, ça aurait pas été très très bien reçu, probablement, par le Vatican. Donc du coup, ça devenait de la superstition qui, obligatoirement, ne pouvait être que désorganisée. La grande... force une des justifications du retour aujourd'hui, c'est que on a tout un ensemble de croyances ou en tout cas de foi très très diverses, comme le New Age avec l'âge verso, ou des nourritures ou des méthodes de méditation ou ce que vous voulez, ou les fantômes sont parmi nous, etc. Mais les gens l'acceptent d'autant plus qu'ils sont tout ce pseudo-savoir est parfaitement organisé. Et au niveau fictionnel, si on ne met pas de rationalisation, il ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Ce qui aurait été valable il y a un siècle, ou même il y a 50 ans, ne peut plus réellement toucher les gens. Il faut qu'il y ait finalement cette rationalisation qui permet de comprendre les rouages de manière à pouvoir les accepter. Et donc, clairement, de dire que bon, d'autres mondes fonctionnent finalement sur des modèles similaires aux nôtres. C'est la preuve, d'ailleurs, au niveau fictionnel, qu'ils existent.
Je voulais réagir sur l'enfer grec.
Oui, tout à l'heure, Jérôme nous disait que l'enfer grec était plus indifférencié. Non, pardon. Oui, c'est ça, justement. Et qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de domaine de punition. Si, il y en a un quand même. Il y a celui des rares qui ont péché contre les dieux, Ixion, les Danaïdes, etc. Ceux-là, ils ont une partie tantale. Ils ont une partie personnelle où on les supplicie à fond. Mais ce n'est pas très intéressant au fond. Au moment où Orphée descend, ce n'est pas l'endroit où il va s'arrêter. Ou même dans l'Énéide, c'est qui descend bah, c'est Aîné. Suis-je pruche ? Je suis fatiguée là. Le moment, pour moi, fascinant de la visite des enfers par Aîné, c'est les chants des Asphodèles. C'est-à-dire que tout le monde y est, en fait. Tout le monde est là, à traîner dans la prairie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des asphodèles. C'est des fleurs qui sont très jolies quand elles sont toutes seules. Mais ça ressemble à des lys blancs avec un fin liséré noir. Ce qui fait que lorsqu'elles sont en tapis, ça donne une espèce de brume grise absolument sinistre. Il y en a en Corse. Je dis non, mais c'est la Corse, ce n'est pas l'enfer des Grecs, mais il y en a en Corse. Et ça donne une impression tout à fait étrange. Et donc, on a ces fantômes des héros, mais aussi bien des paysans qui errent indéfiniment à travers le champ des Asphodèles, à se rappeler comment la vie était sympa. Et de temps en temps, la seule chose qui leur permet de sortir du désespoir de ne plus voir la lumière du jour, parce qu'en grec, mourir, ça se dit comme ça, ne plus voir la lumière du jour, c'est d'aller se droguer aux eaux du Léthé. Et il n'y a rien d'autre. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Après, l'organisation qu'en fait l'Église catholique, enfin les chrétiens, j'ai toujours trouvé ça super facho. Je suis désolée. Voilà. Et beaucoup moins intéressant en fait, et beaucoup moins en rapport avec ce que pourrait être une après-vie de façon rationnelle. C'est bien un coup des Grecs. Tu as envie de réagir après. Attends, je finis. L'autre truc que j'avais envie de dire, c'est il y a vraiment un surgissement des séries en rapport avec l'au-delà. Comme au XVIIIe, il y a eu un surgissement de la littérature fantastique. Et comme chez les Romains, à un moment, un surgissement des superstitions. Et c'était chaque fois à un moment spécial. C'est le moment où la rationalité devient le véhicule normal dans la société. Comme si, en cessant quelque part de croire à là-haut, on avait besoin de peupler l'en bas. On a abandonné l'espoir de l'après-vie, et du coup, on crée, de l'après-vie dans le sens... la divinité, tout ça, la transcendance. Et d'un coup, on a besoin de se dire, oui, mais en fait, il va rester quelque chose. Voilà.
Et avant de laisser réagir Jérôme, c'est vrai que ça va tout à fait dans cette idée qu'on a besoin aujourd'hui de le rationaliser pour rendre les récits crédibles. Oui,
sur l'espace, le Léthé, etc., c'est finalement justement cette espèce de reliquat de cet au-delà primitif où les êtres sont sans mémoire, ce sont des ombres errantes. Ce n'est qu'un pseudo au-delà en définitive. C'est un au-delà sans conscience, avec des êtres indifférenciés qui perdent la mémoire, qui n'ont pas de forme, qui sont réduits à l'état d'ombre. Et ce que tu disais après est juste également. J'en reviens à mes envahisseurs, à David Vincent, que j'aime bien, mais ça marche aussi avec X-Files. L'imagerie de l'enlèvement extraterrestre, hein, de l'abduction extraterrestre, est exactement l'imagerie de la visitation, alors soit de la visitation religieuse, mais de la visitation des fantômes. Et quand on va lire des descriptions, quand on s'intéresse au sujet et qu'on va lire des témoignages à la fois de récits d'abduction extraterrestre et puis de récits de visitation fantomatique, on a exactement les mêmes récits. C'est-à-dire la sensation, la sensation de paralysie absolue, la sensation de terreur, la lumière qui descend du plafond, la sensation de flotter, d'être emporté vers le haut. Les présences indistinctes, ces choses qui se penchent sur vous, les petits gris, dans le cas des extraterrestres, ou des dames blanches, ou des ombres qui viennent se pencher sur vous, ce sont exactement les mêmes récits. C'est-à-dire que finalement, on a le même phénomène neuropsychologique dans les deux cas. Mais au XXe siècle, visiblement, on préfère l'hypothèse extraterrestre. Elle est plus, je dirais, technologiquement correcte ou scientifiquement correcte que l'hypothèse fantomatique. Mais c'est exactement les mêmes images. Et dans Les Envahisseurs et puis plus tard dans X-Files, on va retrouver ces visions-là qui sont proprement des visions de visitation de fantômes.
Et de toute façon, il y a quelque chose qui m'a toujours amusé chez Spielberg, notamment, qui a beaucoup travaillé à ses débuts sur la visitation extraterrestre, c'est qu'il a très souvent utilisé des chefs opérateurs qui ont, comme Vilmos Zsigmond par exemple pour Rencontre du Troisième Type, qui ont travaillé sur le fait de brûler la pellicule en mettant, et même quelquefois, même au niveau scénaristique, de brûler carrément la peau d'un des personnages. On a le même dans E.T. Il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait ce sont des scènes souvent nocturnes, il y a une lumière en faisceau systématiquement dans ces films qui arrivent. Les personnages, c'est assez évident à la fin de Rencontre du Troisième Type, sont complètement nimbés de lumière au point qu'on ne sait pas exactement à quoi ils ressemblent, ce qui est d'ailleurs un très bel effet cinématographique, et deux, un moyen narratif extrêmement malin pour ne pas mettre non plus trop les points sur les i et les barres sur les t concernant la physionomie exacte des visiteurs, parce que sinon, évidemment, on retomberait dans une certaine matérialité. Là, ce sont des êtres nimbés de lumière. Et même dans IA, on a non seulement des effets de lumière qui sont assez proches, même si le film est plus récent, mais surtout on a la bande son de Williams, même compositeur que pour les précédents films, qui fait appel à des chœurs, mais vraiment des chœurs d'église, pour bien appuyer sur l'aspect non seulement religieux de l'affaire, mais également sur le fait qu'il s'agisse d'une cérémonie à plusieurs, dont nous, spectateurs, finalement, faisons partie, puisqu'on entend les chœurs à l'intérieur du temple qui est la salle de cinéma.
Alors, il y a quelque chose dans la façon que Jérôme a eu de décrire les enlèvements qui m'a fait penser à que c'était exactement la description qu'on a des sensations de cette maladie du sommeil-là.
La paralysie du sommeil.
La paralysie du sommeil, la sidération.
Dont je souffre, je tiens à préciser, donc j'ai l'expérience de ces choses.
Voilà, et que ça va directement dans des créations juste après, de peintres espagnols, par exemple, qui décrivent des rêveuses étendues avec un monstre posé sur...
Le cauchemar,
ça c'est Fuseli, voilà, oui.
Voilà.
Mais il avait mangé beaucoup de viande rouge pendant pas mal de temps avant d'aller se coucher pour être sûr de mal digérer et de faire des cauchemars. Il avait vraiment provoqué cette vision.
Et il y en a un en particulier, espagnol, où on a à peu près ça. Et comme sous-titre, c'est « Le sommeil de la raison Goya. Engendre des monstres ».
Et là, on a l'inverse.
Et voilà.
C'est un bonheur pour un modérateur. Donc, nous allons parler de séries télévision récentes. Non, ça faisait partie, hein, de toute façon, de reprendre ses origines. Tu évoquais tout à l'heure I Am Legend. Je trouve que les adaptations, vu qu'on est là quand même dans des séries, sont tout à fait révélatrices de l'évolution qu'on a vue, puisque la première adaptation, qui est donc The Last Man on Earth, de la fin des années 50, si je ne me trompe pas, avec Vincent Price, emprunte à des codes déjà surannés du film de vampire. Pour prendre un truc simple, si vous avez vu les récents I Am Legend, il y a une scène évidemment où les vampires veulent détruire le monstre et rentrer chez lui. Dans ce premier film, le système de protection très avancé du monstre, c'est un tout petit miroir à hauteur de tête sur sa porte. Et donc un vampire à un moment a cette idée géniale de prendre un marteau, de ne pas regarder, de casser le miroir, ce qui permet à tous les vampires d'aller le prendre.
Ils sont forts.
Ils sont très forts. Ensuite, on a Omega Man, évidemment, avec Charlton Heston, qui est la deuxième adaptation du même roman, dans lequel on retrouve alors des choses très chères à Charlton Heston, hein, qui était quand même déjà président...
les armes, bien sûr. Non, mais il y a cette figure, la figure du sniper, c'est-à-dire qui défend sa propre vie simplement grâce à son fusil, est très très présente dans le film. Mais on a déjà un infléchissement de la fin du film, vu que on a une explication scientifique du fait qu'il soit le seul. C'est justement cette idée d'Omega Man qui est le dernier et dont le sang se mélangeant à la fontaine. On a là d'un coup on a ce que j'appelle moi une image porte-manteau, où on a en même temps une image tout à fait mythologique, traditionnelle de jaillissement de la source qui se mélange au sang qui lui est la base d'un antidote moderne et qui donne l'espoir justement que l'épidémie va arrêter. Et quand on prend le dernier, celui avec Will Smith, on a bouclé la boucle, on est après les années sida. Quand je dis après les années sida, non pas qu'on ait vaincu la chose, mais on est encore dans des années qui ont les virus en tête comme étant la seule chose au-dessus de nous, potentiellement dans une chaîne alimentaire. Et le film commence justement par... C'est une séquence d'intro que je trouve absolument remarquable, avec Emma Thompson qui est à la télévision et qui explique ses recherches. Et il y a une interview comme ça où elle est presque gênée d'annoncer qu'ils ont trouvé un système qui permettait d'avoir des rémissions de cancer, de tous les types de cancers, avec plus de 99% de réussite et aucune mortalité. Et donc cette remarque de la journaliste qui est « Mais donc vous avez vaincu le cancer ?» Et là Emma Thompson qui la regarde fait « Well, yeah, générique ». Et on se rend compte que l'épidémie de vampirisme qui a mis fin à l'espèce humaine est un effet secondaire de ce remède contre le cancer. Et je pense qu'effectivement, quand on prend I Am Legend, on a, sur la base d'une même histoire, on voit bien l'infléchissement qu'on a entre les années 50 et le début du 21e siècle, où on va avoir la même histoire, mais sur un mode qui emprunte de plus en plus de procédés de cohérence scientifique à la science-fiction, et qui préfigure, chronologiquement, l'émergence des séries dont on parle aujourd'hui.
Ça, c'était mon science final. Sans test amène des vampires.
Et j'enchaîne.
J'enchaîne là.
Non, mais moi j'ai des questions. Non, mais j'ai quand même des questions précises à te poser en tant qu'écrivain de science-fiction qui m'a écrit la métaphysique des vampires. Parce que l'autre, on va dire, on a parlé de l'origine de Walking Dead, de Romero au départ qui se sert du zombie comme d'un véhicule de discours social, en plus qu'il pose les bases d'un genre qui aujourd'hui explose et a plus de succès que jamais. Dans les origines des autres séries dont on parle, de True Blood ou autres, on a évidemment comme origine l'entretien avec un vampire, c'est le renouvellement qu'a amené Anne Rice. Je reviendrai plus tard sur les parts scientifiques de la figure du vampire chez Bram Stoker. Et on a une relecture, effectivement, on va 2-3 crans plus loin en rationalisant ce monde-là. Et en tant qu'auteur de science-fiction, et je me pose la question de comment toi, qui écris une métaphysique du vampire, comment tu abordes la chose, sachant que je sais que fondamentalement, c'est de la science-fiction que tu fais, quoi que tu fasses. Même si parfois tu l'habilles en fantasy, je sais que tu l'abordes comme un écrivain de science-fiction. Donc de quelle manière, voilà, abordes-tu cette métaphysique du vampire ou le vampire en tant qu'auteur de science-fiction?
Alors en fait, c'est la faute d'Anne Rice, parce que c'est elle qui a commencé. Je suis vraiment désolée. Elle a une théorie rationnelle, pas forcément raisonnable, sur l'existence des vampires. Pour ceux qui n'ont pas lu le cycle, en gros, les vampires sont le résultat d'une erreur de manipulation des esprits. Ce sont des esprits que des sorcières plutôt bienveillantes ont appelés, qui ne sont au fond que des entités dont on ne dit pas que c'est des fantômes du tout. Ce sont des êtres conscients qui sont en apesanteur autour de nous, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de s'incarner, parce que pour sentir, pour jouir, comme disait... c'était dans quoi, ça? C'est dans une très chouette série de science-fiction. Les Éternautes, peut-être, avec le... il cherche Chimère. Aïe, aïe, aïe. Je te regarde pas, tu ne m'aides pas là. Tu ne m'aides pas. Bon, une BD de science-fiction que j'ai adorée, où il y avait un prince qui avait la capacité de changer de sexe, qui était amoureux de... Bon, bref. Pour jouir, en fait, il n'y a que le corps humain. Comme il faut, par tous les ports. Donc, ça, ils ont bien compris ça, les esprits qui vivent autour de nous et qui ne sont pas décrits comme des fantômes. Hein. Mais comme des entités. Et donc, les sorcières arrivent à les incarner dans un corps, sauf qu'ils sont tellement énormes que ce corps ne suffit pas. Ils doivent se propager. Et qui plus est, ils se nourrissent de sang. Et l'espèce des vampires n'est au fond qu'un sous-produit de ces entités qui ont fini par se diluer, finalement, dans toute l'espèce vampirique dont Anne Rice parle. Ça, déjà, c'était une façon rationnelle de penser le vampirisme. Moi, j'ai même pas essayé de trouver une explication à l'existence des vampires. J'ai dit, voilà, admettons, ils sont. Admettons qu'ils soient également sensibles, comme on nous le raconte, à tout ce qui est symbole, par exemple, chrétien. Mais là, comme Anne Rice, je suis d'accord, c'est le résultat d'un trauma. Ils ont totalement avalé la propagande vaticane, et c'est pas tellement qu'ils soient sensibles à la croix, c'est qu'ils croient l'être. Donc ça fonctionne pareil. Et en fait, dans mon univers, tout est cohérent sans être forcément rationnel. Voilà. Et ce que j'aime là-dedans, c'est pousser la chose au bout de sa logique. Mais fondamentalement, et là je vais penser à un zombie particulier qui n'est pas à moi, c'est le zombie Raymond Soulier dans Terry Pratchett. Celui qui a des revendications sociales, par exemple, ce n'est pas parce qu'on est un non-mort qu'on n'a pas des droits à la vie et au respect. Il tient le bureau de soutien des non-morts, il fait des pétitions, il essaye d'entrer dans le guet, enfin, il essaye d'avoir une vie sociale. Et là aussi, c'est cohérent. C'est totalement déraisonnable, mais c'est cohérent. Et c'est ça que j'essaye de faire, parce que j'ai envie de ce décalage entre ce surnaturel qui est finalement devenu si familier et l'existence déraisonnable, la non-existence déraisonnable de ces créatures. Mais au fond, je suis persuadée que ces créatures sont dans la salle, si vous voulez. Je ne veux pas dire que je crois aux zombies, aux vampires, etc. Mais par exemple, je sais qu'il y a un zombie ici, c'est moi, là. Après 4 jours de festival, je rêve de bouffer le cerveau de quelqu'un parce que je ne pense plus. Non, pas le tien, t'es trop surexcité. Voilà. Jérôme est une bonne victime.
Oui, mais mon cerveau est bien. Puis en plus, il est chargé de substances stupéfiantes, etc. Donc tu prendras grand plaisir à consommer mon cerveau. Non, mais pendant que tu parlais, je pensais à la série Master of Horrors, où il y a un épisode où des zombies réclament le droit de vote. Donc c'est intéressant, toutes ces réclamations, l'au-delà se politise drôlement, je trouve, contemporaine.
Il y a notamment c'est Joe Dante qui
L'épisode de Joe Dante.
C'est Joe Dante, effectivement, ouais. Et c'est les anciens, les victimes en fait de la guerre en Irak qui reviennent en fait et qui organisent une manifestation d'outre-tombe contre George Bush et
c'est
sa politique.
C'est ça.
Et on retrouve d'ailleurs là pour le coup l'utilisation, vraiment le message politique, je veux dire associé, sociologique et politique de Romero. Je me faisais une réflexion en même temps qui me semble pour le coup relativement évidente. Est-ce que cette mise en cohérence et le fait d'aller jusqu'au bout d'une logique dans la représentation d'un au-delà n'est pas intrinsèquement lié au mode d'écriture d'une série américaine? Une série qui fonctionne, on va la tester sur une saison, deux saisons. Si elle marche sur deux saisons, on passe directement à des contrats de 5. Voire de 8. Et de ce fait-là, n'est-il pas parfaitement normal, dans la mesure où on suit, où on fait comme ça au bout d'un moment, toutes les séries, même celles qui fonctionnent sur un épisode, au bout d'un moment, instaurent des arcs narratifs où on suit l'évolution des personnages. Ça, c'est le scriptwriting de série normal. Oui. Est-ce que cette forme même liée à la série ne conduit pas justement à la construction d'un monde cohérent?
Alors, peut-être pas tout à fait, parce qu'on peut trouver des contre-exemples. Lost, par exemple, a été abandonné par un certain nombre de téléspectateurs, mais finalement, ça a suffisamment eu de succès pour qu'il y ait quand même un nombre de saisons assez important, alors que c'est... Bon, il y a une sorte de construction, mais enfin, c'est quand même extrêmement incohérent, et on sent bien qu'à la fin, ils font tout pour retomber sur leurs pieds en fermant la boucle de façon plus ou moins maligne, et d'ailleurs, en le faisant par le biais de la religion, par ailleurs. Mais très rapidement, on s'aperçoit bien que l'île n'est pas possible. Et même quand le spectateur finit par faire son deuil de la raison sur l'île, ils en rajoutent en disant qu'elle peut se déplacer toute seule, etc. Donc on est définitivement complètement paumé, on n'est pas dans un univers cohérent. Et déjà, avant, bon, même si on n'est pas tout à fait dans le fantastique, mais on n'en est jamais complètement éloigné, dans les années 80, Twin Peaks était assez en dehors de la logique. Alors évidemment, c'est Lynch, donc on ne va pas non plus lui demander d'être respectueux des règles, parce qu'en fait, il a ses propres règles, il déconstruit ses logiques pour lui. Et effectivement, quand on décortique généralement ces scénarios, ils sont extrêmement bien construits et ils sont logiques, sauf que ça ne correspond, ils ne correspondent pas, ils ne sont pas calés par rapport à des paradigmes ou des canons narratifs. Mais ils ne sont pas, en tout cas, construits sur, justement, les systèmes d'arc narratif tels qu'utilisés dans les séries américaines classiques.
D'ailleurs, je me souviens que tu m'as parlé notamment de l'irruption de l'au-delà dans Battlestar Galactica.
Ah, ça m'avait énervé, ça. Jusque-là, ça marchait très bien, la série. Et puis alors, le retour de cette andouille, alors quand tout le monde la croit morte, ah ben non, à partir de là, j'ai pas plus pu regarder Battlestar. On avait rompu le contrat avec moi, là.
Oui, mais alors, il y a un point assez important depuis une dizaine d'années qui a fait son apparition dans les séries, et même dans les films, mais beaucoup plus dans les séries, c'est les gens qui ont vraiment un énorme problème pour mourir. C'est-à-dire qu'ils claquent et ils reviennent à la vie. Alors, je ne sais pas si c'est une question de contrat. L'avocat s'est pointé chez le producteur en disant « Non, mais attendez, vous aviez prévu tant d'épisodes. Là, vous vous êtes trompé. Ah, bah merde, bon, bah, on va le faire être ressuscité. » Bon, c'est pas grave. Mais on n'est jamais sûr de rien maintenant. Quand on voit quelqu'un être buté, ça ne veut rien dire. Il faut le savoir. Il peut revenir sous une forme ou une autre. Mais ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas été... On rigole un peu, mais il y a 30 ans... ou même 20 ans, c'était une erreur scénaristique.
Non, mais déjà, non, Rostand, ça m'énervait, les 3 heures de mort de Cyrano. Alors,
oui, non, mais.
En plus, ils
non,
reviennent.
Mais, oui, mais. Bon, c'est comme dans n'importe quelle tragédie grecque ou n'importe quel opéra où ils nous chantent 20 minutes d'aria avec un poignard planté dans le cœur. Bon, mais une fois qu'il meurt, c'est fini.
Oui, non, il revient pas. Hein, non.
On quitte le théâtre, on passe par les toilettes et on rentre chez soi. Voilà. Là, dans la série télé actuelle, c'est vrai que s'il meurt, mais complètement décapité et tout, enfin, théoriquement, il n'y a pas de doute, en tout cas d'un point de vue médical, hein, non, ça, c'est pas une garantie.
Je pense que Game of Thrones a changé ça en termes d'attente de public.
Bien avant, tu as ça quand même dans les comics, où le super-héros meurt et revient à la vie par des tas de procédés narratifs plus ou moins crédibles.
Contestables, on va dire, directement.
Plus ou moins contestables. Donc finalement, c'est pas une nouveauté. Tu as ça aussi dans dans tous les slashers où le tueur masqué n'en finit pas de crever, de se relever.
Ça a commencé dans les années 80, effectivement.
Même 70.
Et Sherlock Holmes.
Ah, oui, non, on n'a jamais vu, on n'a jamais eu la
vraiment
la. Non, on n'a jamais eu la preuve que en tombant dans les gouffres de Reichenbach, il était mort.
Elvis non plus d'ailleurs.
Oui, non, ça oui. Effectivement.
Ah non, mais donc lui, de toute façon, n'est pas mort, il ne peut pas mourir.
Non, il est reparti chez lui. Non, mais fallait le dire, il y a quand même des jeunes qui pourraient penser qu'Elvis Presley est mort, ce qui est complètement irrationnel comme idée. C'est pas possible, quoi.
Alors, c'est très rigolo, il faut absolument que tu lises la nouvelle de Michel Ferret dans 42.
Il faut absolument lire le recueil 42. Voilà, non, mais je rêve, tu m'as même fait faire du placement de produits. pour quand même revenir à ce qu'on... Je vais revenir aux séries, à deux, trois choses qui moi, m'ont marqué, que j'ai trouvées et qui sont liées à l'écriture de séries dans True Blood, on en parlait tout à l'heure. Dans la manière, justement, de reprojeter dans les règles d'une série tout un au-delà assez merveilleux, on a... ce qui est très rigolo, c'est de comparer Twilight et True Blood. Pour faire très simple, Twilight, on va tout de suite laisser de côté le fait qu'on a une version donc mormone. Non mais c'est vous, enfin Stephenie Meyer est mormone.
C'est parce qu'il veut pas que je pousse mon hurlement de rage.
Voilà, elle a écrit un récit vampirique pour faire passer des valeurs qui sont pas de sexe avant le mariage, pas d'avortement. Enfin, je veux dire, Twilight est écrit comme un manifeste mormon, moral, d'éducation, et que bon voilà.
Non mais tu rigoles, c'est même pas de sexe après le mariage, non plus.
Si.
Une fois.
Et tous ceux qui se sont envoyés 4 épisodes en attendant qu'il se passe un truc, Vinny commence dessus, hein, et puis paf, elle est enceinte, hein, parce que c'est.
Non mais c'est tous qui se sont envoyés 4 épisodes.
Voilà. Oui c'est ça.
Et après c'est juste l'horreur parce que ils cassent tout en la baisant. Non mais.
Mais je vais réussir à revenir à mes séries, vous n'allez pas m'en empêcher. Hein. Mais... Et donc, effectivement, on a dans True Blood, on a un début qui dort de la première saison de Buffy, exactement la même chose. C'est une histoire extrêmement fleur bleue d'une blonde, relativement niaise, gentille, pure, qui tombe amoureuse, évidemment, d'un brun ténébreux à la longue canine sensuelle. Et oui, et qui a exactement comme dans Twilight, à un moment, le choix entre le brun ténébreux froid et le brun... musclé, chaud, qui s'avère être un loup-garou, évidemment, hein, du poil ou pas du poil, c'est un sujet très californien et très contemporain, telle est la question, et la manière dont ils vont, au fur et à mesure, exploiter des personnages en les réinscrivant dans un au-delà. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, on a effectivement ce brin ténébreux qui est très une tradition américaine, on découvre son passé, il est mort pendant la guerre civile, pour la guerre de sécession en français, bon, on a vraiment tout ça, et au bout d'un moment... Suki est niaise. Enfin, je veux dire, c'est sa marque dans la série. Je veux dire, elle est insupportablement niaise.
Ah oui, mais alors, dans la série, c'est une intellectuelle. Elle est agrégée. Parce que tu lirais le livre. Oh mais ah non, mais j'ai tenu 10 pages. Et donc, elle est tellement con, c'est insupportable.
Et moi, je finis juste là-dessus. Et moi, c'est un truc que j'ai trouvé juste génial. C'est le moment où tout d'un coup, on découvre que c'est une fée.
Et
ce que je trouve génial comme procédé extrêmement moderne, c'est le fait d'écrire un personnage qui est niais, peut-être pour des impératifs d'ailleurs de correspondance au public visé dans la première saison. Non, mais c'est avait possible parce qu'il travaille d'une manière extrêmement professionnelle. Le succès des séries américaines, c'est énormément de travail autour. Et je serais absolument pas du tout étonné qu'ils aient les retours sur le personnage des différents spectateurs et qu'ils se décident à se dire il faut qu'on le justifie. Il faut qu'on justifie pourquoi on a fait un personnage aussi niais et paf, ils nous en font une fée. Et il nous rajoute une couche de rationalisation avec l'idée que les vampires sont complètement excités et accros. C'est leur herbe à châle, sans le fait, quoi. Et cette idée que je trouve assez symptomatique de ça, c'est que pour rendre le caractère niais et presque peu crédible du personnage, eh ben on va en faire une fée. Et donc, on va faire appel à un surnaturel de tradition pour rendre cohérent quelque chose dans un récit moderne. Et on va remettre une couche de cohérence scientifique dessus en faisant du sang de fée la peau absolue à vampire.
Alors, il y a un truc, en tout cas, pour reprendre la jeune vierge à la peau blanche et le beau ténébreux. C'est que, dans le vampirisme, c'est formidable parce que ça permet de mettre une loupe sur les fantasmes et les peurs du monde. C'est pour ça que ça évolue. Mais comme tu voulais le faire, je vais prendre ta place, pour le Bram Stoker, qui date vraiment, mais alors de la toute fin du 19e, et qui a été écrit en Angleterre, enfin, on se retrouve avec une peur concrète de l'étranger. Vaguement roumain, voire hongrois, c'est vous dire, en tout cas du continent, donc l'horreur, qui va venir en fait polluer le sang pur de l'Angleterre, alors par les femmes qu'il va en fait posséder, mais dont il va justement changer en fait le sang et donc quelque part la lignée. Et ce n'est que ça. En fait, le surnaturel évidemment existe dans ce roman. Mais c'est juste un moyen pour exprimer autre chose qui est la peur viscérale et très très anglaise, qu'on retrouve d'ailleurs dans la SF, il y a plein d'histoires d'invasion, de l'étranger, de celui qui risque de venir polluer l'île.
Je vais ajouter un point, c'est extrêmement précis dans Bram Stoker, c'est un point qui n'est toujours pas souvent mis en lumière, c'est déjà d'une part, Bram Stoker était irlandais. À une époque où à Londres, sur les pubs, on avait certains pubs, pas tous, on avait des panneaux, interdits aux chiens, interdits aux Irlandais. Il le vivait de manière d'autant plus dure que lui était donc le vice-directeur d'un des théâtres les plus importants de Londres, une grande stature avec un accent irlandais à couper au couteau, donc il était à la fois dans les milieux culturels londoniens et en même temps une figure d'Irlandais. Et quand on regarde la structure du récit, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Dracula est tué par deux personnages et deux armes. Il est tué par l'Américain, qui est le seul qui a eu des visions des vampires qui les connaissait avant, parce qu'il était à la frontière mexicaine, donc à la limite de la civilisation. Et on est à l'époque des théories racialistes, où tous les débats idéologiques sont autour du fait que est-ce que le sang américain est le même que le sang anglais, ou est-ce que déjà les Américains sont une espèce différente du fait du creuset. Et l'autre arme qui, en même temps, dans les mains de Jonathan Harker, détruit Dracula, c'est un Kris. C'est donc l'arme de l'Empire, de l'Inde, de l'autre bout. Et d'où vient Dracula? Il était le dernier rempart de la civilisation occidentale contre, justement, les invasions barbares. Et cette peur qui est encore complètement d'actualité aujourd'hui. Je veux dire, la limite de l'Orient qui nous fait peur n'a pas tellement changé depuis cette époque.
Alors, là, on touche à un des aspects de construction de mon univers. C'est-à-dire que lorsque j'ai mis en place l'univers de métaphysique du vampire, de l'alouette, etc., c'était justement bâti sur le fait qu'on se retrouvait avec des mythologies voisines, normalement imperméables, et je trouvais qu'il fallait que les gens aient la nationalité. Et en fait, au départ, mon projet, c'était un truc qui devait s'appeler Royaume 93 et qui se passait dans le 93, le département. Et on trouvait donc forcément des djinns, puisqu'ils avaient suivi les copains. On trouvait des anges, parce qu'il y avait les voisins qui étaient catholiques. Et tout ça se mélangeait joyeusement, et il fallait de l'ordre dans l'un petit peu. Voilà. Et que de plus en plus, les gens commençaient à accéder au royaume de l'autre. Voilà. Et donc, basiquement, j'ai créé tout cet univers-là autour de cette idée de imperméabilité, porosité. Et de désirabilité de la porosité. Voilà.
Est-ce que vous avez un mot à ajouter ? Quelque chose dont vous voudriez parler avant que je...
Non.
Non, pas spécialement.
Ça, c'était un mot quand même. Ouais.
Est-ce que vous avez des questions ?
Ah, il y en a une là.
Elle ne va mordre personne. Nous la retiendrons. Nous avons de l'équipement.
Non, mais je suis trop fatiguée pour mordre quiconque.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, sur le sujet de départ, alors ça fait bizarre de s'entendre, que vous avez évoqué sur la scientificité du vampirisme, il y a un bouquin, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous pouvez en parler... Mais moi, que j'ai lu il y a longtemps, et juste après Anne Rice, et c'était le début d'Anne Rice, donc je n'avais pas encore d'explication dans Anne Rice, c'était très métaphysique, les premiers, et qui est, si je me souviens pas, Contrat sur un vampire. Dans Contrat sur un vampire, on a exactement une vision avec des scientifiques qui cherchent un remède, des scientifiques vampires qui cherchent un remède au vampirisme contre une camarilla qui est très dans la métaphysique et la religion. Et l'idée que l'homme est immortel. Mais en fait, on meurt tous d'un cancer, c'est juste qu'on nous le cache, à un moment ou à un autre, et que les immortels sont les vampires. En fait, ceux qui ont des anticorps qui leur empêchent de mourir du cancer, développent d'autres éléments qui en font des vampires. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, lu. Ouais.
Non, mais moi, ça m'évoque une nouvelle de China Mieville qu'il faut absolument lire si un jour vous la trouvez. C'est Le Poisson du Miroir.
Le Poisson du Miroir ?
Le Poisson du Miroir, oui. C'est les vampires sont en fait des habitants d'un monde parallèle que nous piégeons à travers nos miroirs sans le savoir. Dès que nous passons devant un miroir, nous piégeons un vampire qui est obligé de nous mimer jusqu'à la fin de notre vie. Et finalement, les vampires trouvent un moyen de briser les miroirs et de passer de l'autre côté. Et en fait, le début de la nouvelle, c'est la reddition de l'humanité devant les vampires qui se sont enfin révoltés contre l'esclavage. C'est une beauté, cette nouvelle. Et d'ailleurs, c'était à partir du bestiaire fantastique de Borges que China Melville l'avait écrit.
Merci.
Bonjour. Je ne suis pas un expert du coup de ce domaine-là, mais du peu de connaissances que j'ai l'impression qu'en fait, les vampires ou les zombies peuvent s'agréger, se regrouper en communauté, reconstruire une société, etc. Vous parliez même de revendications sociales, mais que les fantômes, non. Que quand il y a des fantômes dans des films, c'est toujours solitaire, ou éventuellement une famille, mais suis-je dans l'erreur ? Et sinon, pourquoi les fantômes ne sont pas utilisés de cette manière-là dans l'imaginaire ?
Parce que les fantômes ne sont pas des entités à l'instar des vampires et des zombies. Ce qui compte dans le fantôme, ce n'est pas la créature, mais l'effet qu'elle produit en définitive. Le hanté est plus important que le hantant. Le hantant n'a pas d'importance. Dans tous les films, les grands films de hantise, les grands films de fantômes, c'est le hanté qui compte. C'est l'humain qui compte. Le fantôme est plus de l'ordre de la sensation,
C'est même plutôt une figure de l'absence qu'une figure de la présence. Le vampire, lui, est incarné, le zombie aussi, mais pas le fantôme. Le fantôme n'est qu'une action psychologique sur un être.
Oui, bonjour. Merci d'abord pour cette conférence. J'avais une question, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la difficulté de mourir dans les séries récemment et dans les comics. Et je me disais justement, vous avez parlé aussi de Sherlock Holmes, et je me disais qu'à une époque, on pouvait faire mourir un héros et le faire revenir après si on donnait une explication complètement rationnelle. Et j'ai l'impression que depuis, dans les séries ou dans les comics, on va avoir des héros qui meurent et qu'on va chercher dans un au-delà. Alors qu'avant, c'est pas qu'ils étaient morts et qu'ils revenaient, c'est juste qu'ils n'étaient pas morts. Et qu'est-ce que vous pensez qui a changé cette sorte de paradigme, en fait ? Le fait que maintenant les héros peuvent mourir, même momentanément, mais ils y passent comme nous autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a une influence de comics ou d'autres choses là-dessus ?
Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un ressurgissement, là, très fort, du sentiment religieux. De l'angoisse et du rapport à la mort, qui fait que nous avons collectivement besoin de penser l'au-delà. Mais même si individuellement, nous restons rationnels et basiques. Donc du coup, ça serait une espèce de catharsis de cette angoisse.
Alors il y a ça, et puis... aussi le fait que les règles narratives sont beaucoup moins rigides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant. Il y a une certaine forme, alors le terme t'apprends à mettre avec des guillemets, mais il y a une certaine forme d'essence du feuilletonisme qui a été complètement généralisée, où finalement les événements qui normalement pendant très longtemps constituaient de véritables éléments importants de la narration, du fil de la narration, deviennent juste des effets assez brefs qui n'ont finalement pas d'effet durable et donc que l'on peut remettre en cause juste après. Dans le même type d'exemple, on peut très bien avoir quelqu'un qui... un héros qui va avoir... genre Schwarzenegger ou Stallone, qui va avoir énormément de muscles, qui du coup va être mis dans des situations physiquement difficile, qui va dévaler à peu près 500 mètres de montagne hérissée de silex, qui va faire houille quand il arrive en bas, alors qu'il même lui devrait être en miettes, et qui va se relever l'air de rien. Ce n'est plus, il n'y a plus de vraisemblabilité. Et le fait de mourir pour renaître, finalement, n'est jamais que bon une. C'est dans la même veine, bon, sauf que bon, évidemment, c'est un petit peu plus exagéré, mais la logique reste similaire pour moi.
Je crois qu'il y avait une dernière question qui sera la dernière qu'on pourra prendre parce qu'il est l'heure que Jeanne doit aller en dédicace et qu'il y a une autre table ronde après qui sera passionnante.
Alors déjà merci pour cette discussion que vous avez eue et j'aurais aimé avoir votre point de vue sur le jeu vidéo, sur le thème du jeu vidéo par rapport aux zombies, aux esprits, ce genre de choses, parce que je sais pas si c'est dans les dernières années du jeu vidéo, mais dans, par exemple, l'un des derniers jeux vidéo qui parlait des infectés, des zombies, qui est The Last of Us, on a pu voir une certaine vision qui se rapprochait à celle de The Walking Dead ou de ce genre de choses et qui pouvait donner une certaine vision, une certaine critique ou aussi par rapport à l'environnement qui changeait et qui avait un impact. Quelle est votre opinion là-dessus, si jamais vous nous en avez eu?
Là, je vais pouvoir répondre moi brièvement. Il y a ce qu'on a appelé à un moment et qu'on appelait à partir des années 90, qui n'a pas arrêté de se développer, ce qu'on appelle la convergence numérique, fait qu'aujourd'hui, on a dans l'écriture de scénarios, le développement d'univers ou simplement le business plan d'une série, de certains comics ou de séries télévisées, le fait d'inclure le jeu vidéo fait partie de la chose et que ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'on a des influences croisées entre les deux. Et The Last of Us en fait partie, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la vague de The Walking Dead, sur la vague de ces univers-là, c'est de ça dont on va s'inspirer pour les proposer comme expérience de jeu. Et donc, d'une manière générale, ça fait relativement longtemps qu'on a des transpositions comme ça d'univers d'un média à un autre et c'est pas du tout étonnant qu'on retrouve donc cette idée donc du zombie qui est associé à un message politique qui est associé au reste.
Et en plus, le zombie en termes d'intelligence artificielle, c'est relativement facile à programmer. Donc je crois que c'est très intéressant pour l'univers du jeu vidéo. On gagne beaucoup de temps avec les zombies.
Je vous remercie. Bon après-midi.